vous m'en direz tant ?
En cette période de panique virale, climatique, au moment où plus que jamais la vérité scientifique n'est plus considérée que comme une opinion parmi d'autres, et même pire, une opinion politique, il me semble urgent de découvrir ou redécouvrir la zététique. Le mot et sans doute l'idée correspondante nous viennent de l'Antiquité grecque. On pense à éthique ou esthétique, mais si ces deux notions renvoient respectivement à la science morale et à la science des sensations, puis plus tard du beau, la zététique serait la science de la science, la rigueur morale de l'action scientifique, peut-être de sa beauté. Les premiers zététiciens étaient au fond des sceptiques, et le scepticisme a été enseigné par le philosophe Pyrrhon 4 siècles avant notre ère. Zététikos veut dire « qui cherche, qui aime chercher », sous-entendu qui ne se contente pas d'une vérité révélée, colportée ou imposée. Le moteur de la zététique est le doute qui nous rapproche, via Descartes, de notre époque. Les bienfaits du doute ont été remis à l'ordre du jour au XXe siècle, alors que, contre toute attente au vu des développements de la connaissance humaine, légendes, expériences paranormales, dogmes, préjugés et idées reçues envahissaient les médias et troublaient les esprits. Marcello Truzzi, chez les anglo-saxons, ben oui, et puis Henri Broche, chez nous, ont ressorti ce vieux mot de l'oubli et fondé des revues, des observatoires zététiques. C'est Henri Broche qui, le premier, a parlé de l'art du doute. On pourrait penser, et pour certains craindre, que cet art du doute s'applique en tout premier lieu aux croyances et religions diverses. C'est faux. La croyance n'est pas la cible de la zététique, un peu comme la religion n'est pas un sujet pour la science. La zététique se situe sur un autre terrain, qui est celui du discours argumenté, qui donc se voudrait être scientifique, porteur de preuves, discours qui peut être dès lors critiqué et éventuellement réfuté. Toute croyance qui ne cherche pas à se justifier n'est pas réfutable par essence. Au contraire, tous ceux qui prétendent prouver la réalité de visites extraterrestres, qui avancent des théories pour étayer quelques médecines alternatives, cela s'expose à l'examen critique des zététiciens. Entendons-nous bien. Ce qui est critiqué ne sera qu'un argumentaire. Que l'on croit à l'efficacité de l'homéopathie, très bien. Et d'ailleurs, que son efficacité se constate n'impressionne pas nos virtuoses du doute. Mais que l'on cherche à démontrer scientifiquement son bien fondé est une autre affaire. La zététique précise toutefois que ce qui n'est pas démontré n'est pas pour autant indémontrable et que ce qui n'est pas expliqué n'est pas à jamais inexplicable. C'est une question de patience pour l'humanité. Nous avons dû attendre des siècles et même des millénaires pour que des phénomènes en quoi nos lointains ancêtres voyaient des signes d'intervention de puissances surnaturelles, tels que les éclipses, les comètes, les étoiles filantes, trouvent enfin une explication cartésienne. Dans leur quête, j'allais dire leur zeste, les esthéticiens sont guidés par un certain nombre de principes, des principes qui devraient bien accompagner notre quotidien face à la description du monde qui nous est faite. En voici quelques-uns très simples. L'origine de l'information est fondamentale. Voilà bien un problème qui concerne les journalistes qui sont de plus en plus éloignés de la source de l'information qu'ils nous livrent et qui, de surcroît, se doivent même de protéger cette source lorsqu'elle n'est pas eux-mêmes. De vous à moi, tout autant protéger la liste complète des actionnaires d'un journal. Mais on a fait des progrès. C'est ainsi, par exemple, que les experts qui jugent des bienfaits ou de l'innocuité de certains produits qui nous entourent sont peu à peu convaincus de complicité avec ceux qui les fabriquent. Autre recommandation importante. Quantité de preuves n'est pas qualité de la preuve. Ainsi, une phrase répétée 1000 fois, par exemple sur les réseaux sociaux, n'en devient pas vraie pour autant. Ou encore, 1000 témoins peuvent tout aussi bien se tromper, en quelque sorte, comme un seul homme. Nous sommes là dans ce qu'on appelle l'information colportée. Chacun a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Si dans un journal, on retirait tout ce qui est communication intéressée, reprise d'informations non strictement vérifiées, personne ne voudrait plus l'acheter tant il serait maigre. Mais si dans notre journal, tout était toujours vérifié, il faudrait tant de journalistes enquêteurs que plus personne ne voudrait l'acheter non plus, tant il serait cher. Et pour la justice, souvent concernée par le problème du témoignage, c'est autre précepte. La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Or, il est courant de constater que toute affirmation est considérée d'abord comme vraie tant qu'elle n'a pas été affirmée scrupuleusement. C'est tout le problème de la fameuse présomption d'innocence, pas vraiment compatible avec l'impatience des médias. Mais, bien entendu, l'affirmation d'un doute doit elle aussi être démontrée. Et c'est là que le doute devient un art, ou du moins une technique de réflexion, et donc un effort. Hélas, il n'est souvent qu'une échappatoire, le rejet facile d'une éventuelle vérité déplaisante. Il y a une mode dans l'enseignement qui consiste à éduquer les jeunes aux médias. Bon, éduquer, il en restera toujours quelque chose. Mais je me demande s'il ne serait pas plus urgent d'enseigner le doute envers ces médias, le doute élevé peut-être au rang de l'esprit critique. Ah oui, mais et si les élèves se mettaient à douter de ce qu'on leur enseigne? Quel professeur d'histoire a le temps de prouver que Jeanne d'Arc a bien été brûlée à Rouen ?